Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée.
La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un État entièrement indépendant. Elle est toute prête à organiser avec les éléments politiques algériens, et notamment avec ceux de la rébellion, la libre autodétermination.
La signature de cet accord d'Évian et l'acceptation par le général de Gaulle du souhait des Algériens, qui se manifeste par un oui massif au référendum organisé, ouvre la voie à une nouvelle ère en Algérie. Mais si a priori ils mettent fin à la guerre qui secoue le pays depuis une dizaine d'années, dans la réalité, on entre dans une période d'incertitude dans laquelle les leaders nationaux sont désormais face à face. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Wari Boumediene, le second président de la République algérienne.
Nous sommes actuellement dans la basse Casbah. Nous nous trouvons au carrefour de la rue de la Lyre et de la place de la Vigerie. Et une foule considérable d'Algériens s'est rassemblée devant les bâtiments de l'archevêché sur la place de la Vigerie pour crier son enthousiasme et sa liesse à l'issue de cette journée historique du référendum d'autodétermination. Des dizaines de milliers d'Algériens, d'hommes et de femmes, sont massés le long des trottoirs et sur la place et crient sans fin « Vive l'Algérie, Algérie indépendante, vive l'Algérie !»
Si le pays tout entier célèbre ce moment historique qui met fin à plus de 150 ans de colonisation, les leaders nationalistes semblent moins à la fête. Ils arrivent divisés à cette accession à la souveraineté internationale. Rabah Azeraï, dit le commandant Azzedine, responsable pour le Front de Libération Nationale FLN de la ville d'Alger.
L'indépendance, c'est une indépendance merveilleuse. C'est fini. Les moteurs de chars, on ne va plus les entendre. Les bombardements de Meshta, c'est terminé. Les morts terminés, qu'il fallait passer à une autre étape. Et là, à notre niveau, nous, responsables, on était inquiets.
Bachir Boumaza, l'un des leaders nationalistes qui deviendra plus tard le ministre du Travail et de l'Économie.
La réalité, c'est que nous étions divisés, peut-être pendant la guerre de libération, mais maintenant on connaît l'histoire, nous étions divisés, et je dirais même dans un certain sens que c'était normal. Mais la présence du système colonial empêchait ces divisions d'être mises à nu.
Les accords d'Évian discutés et signés en France avec quelques leaders vont un peu plus creuser les divisions entre les chefs nationalistes. On assiste à une véritable bataille de leadership. Ahmed Ben Bella, l'un des principaux leaders.
Moi, je voulais une révolution complète. Je voulais enlever les terres aux colons. Pour moi, les colons, c'était l'ennemi.
Et vous pensiez que ce n'était pas possible avec le GPRA de l'époque ?
Non. C'est l'aile qui n'est pas révolutionnaire. C'est finalement deux visions pas très, très semblables. Moi, je voulais une vraie révolution.
Reda Malek, ancien premier ministre algérien.
Du côté français, on a parlé d'avoir bradé. On a accusé de Gaulle d'avoir bradé l'Algérie. Du côté algérien, on a dit que ça, c'est une plateforme néo-colonialiste. Et Boumediene, à l'époque, suivi d'autres membres de l'état-major, de deux autres membres de son état-major, avait voté contre.
Anissa Boumediene, l'épouse de Wari Boumediene.
En février 1962, c'est-à-dire avant la signature des accords d'Évian, Wari Boumediene avait écrit dans ses directives à l'armée et au président du GPRA, l'indépendance doit être avant tout l'indépendance économique.
Wari Boumediene, en tout cas, les cinq leaders qui ont négocié à Paris ont fait beaucoup trop de concessions à l'État français. Pas question de s'aligner sur ce qu'ils ont décidé. Reda Malek, ancien premier ministre algérien, militant nationaliste.
Boumediene, à cette époque-là, était contre toute négociation. Et il faut d'abord régler les problèmes internes de l'Algérie, les problèmes internes que nous sommes en train, qui empoisonnent notre existence, pour aller ensuite à ces négociations dans des conditions plus favorables.
Abderrazak Bouhara, le chef de bataillon de l'ALN, l'armée de libération nationale à la frontière algéro-tunisienne, où le commandant Boumediene lui avait confié le commandement d'un important bataillon.
Il y avait l'idée suivante qui était répandue au sein des combattants. On se disait, il est possible qu'il y ait un accord aux dépens des combattants qui se trouvaient sur les frontières. Et c'est peut-être là une des raisons qui explique la grande solidarité qui existait entre les moujahidines sur les frontières et ce qu'on appelait les unités qui dépendaient de l'état-major général.
Si Wari Boumediene s'oppose à ce qui se discute à Evian, il tient néanmoins à avoir avec lui un des chefs historiques. Il sait qu'il en a besoin pour être crédible, qu'il n'est pas assez connu et assez politique pour se lancer tout seul à l'assaut de la citadelle. Il va envoyer son proche, Abdelaziz Bouteflika, à Paris, pour les approcher. Aussi Naït Ahmed fait partie de ce leader qu'il veut ramener à sa cause.
Ils avaient envoyé Bouteflika pour convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit « Qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections ? Vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. » Il a été très dur à l'égard de l'état-major. Donc, out. Le Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il est question, en ce qui me concerne, ils connaissent un peu le point de vue politique. Et ils se sont rabattus sur Ben Bella.
Ahmed Ben Bella va être plus réceptif à l'appel du pied de Boumediene, qui a envoyé un fin négociateur. Rabah Zerari, ancien commandant de l'armée de libération nationale.
Ben Bella était heureux. Il a accueilli Bouteflika en disant « Ah, alhamdoulilah ya Rabbi. Grâce à Dieu, aujourd'hui je peux mourir. » En voyant des jeunes officiers comme ça.
L'accord de Ben Bella est donc donné à Boumediene. Ces agitations du chef de l'armée des frontières inquiètent le GPRA, le groupement provisoire de la République algérienne, qui décide de dissoudre l'état-major de Boumediene. Ceci juste avant l'accession à l'indépendance. Aussi Naït Ahmed, l'un des leaders historiques algériens.
C'est pendant les négociations, GPRA, le gouvernement français, que la crise latente qui existait entre ce qu'on appelle les hauts commandements de l'armée aux frontières marocaines et aux frontières tunisiennes, c'est à ce moment-là que les militaires ont pris des initiatives politiques très très fortes. Ils ont manifesté leur désaccord avant que la signature des accords d'Évian, et c'était pour nous un devoir de rappeler à l'ordre l'état-major. Donc nous avons écrit aux dirigeants militaires de dire « c'est une erreur politique grave que d'avoir ouvert une crise au moment de la négociation ». Et en même temps, nous avons écrit une lettre de soutien à Ben Khaldun.
Nous sommes actuellement dans la basse Casbah. Nous nous trouvons au carrefour de la rue de la Lyre et de la place de la Vigerie. Et une foule considérable d'Algériens s'est rassemblée devant les bâtiments de l'archevêché sur la place de la Vigerie pour crier son enthousiasme et sa liesse à l'issue de cette journée historique du référendum d'autodétermination. Des dizaines de milliers d'Algériens, d'hommes et de femmes, sont massés le long des trottoirs et sur la place et crient sans fin « Vive l'Algérie, Algérie indépendante, vive l'Algérie !» Il règne ce soir une ambiance absolument explosive dans la Casbah. De tous côtés, des drapeaux FLN sont hissés. Des guirlandes multicolores sont tendues à travers des rues et des ruelles de la Casbah. Des affiches, des slogans. Et tout le monde crie pendant des heures, jusqu'à épuisement, sa joie et son enthousiasme maintenant que le scrutin d'autodétermination est terminé.
L'indépendance est acquise. Le 5 juillet 1962, les premiers bataillons de l'ALN, l'armée de libération nationale, pénètrent officiellement dans Alger avec à leur tête Youssef Khadib.
Pour l'histoire, hein, comme pour Paris, ils disent que c'est le général Leclerc qui a, pour l'histoire, c'est la wilaya 4 qui a libéré Alger.
Donc,
on est rentré en force et là, on a invité toutes les wilayas pour venir assister. Il y a eu la wilaya 3, la wilaya 2, la wilaya 3 et des gens de la wilaya 5 qui sont venus assister aux cérémonies. D'autres ne sont pas venus.
Rabah Zerari, l'ancien commandant de l'armée de libération nationale.
Elle est venue s'engouffrer le 27 juillet 1962, en sorte de coup d'État. Il n'y avait rien à libérer le 27 juillet 1962. L'indépendance était derrière nous. Le sang a coulé à Alger.
Labdar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie.
Il y a eu plusieurs coups d'État successifs à Alger. Le GPRA est arrivé le 5 juillet et s'est installé. Ensuite, il y a eu la zone autonome d'Alger. Et ensuite, il y a eu la Wilaya 4.
Wari Boumdienne.
Aux yeux du GPRA, on était des hors-la-loi. Non, on n'a pas fêté l'indépendance. Je parle de moi, je parle de tous mes compagnons, je parle de tout. De toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était la majorité, c'était ce qu'il y avait de plus solide, de noyau le plus dur de la révolution.
Pour Wari Boumdienne, opposé aux accords d'Évian, pas question de célébrer l'indépendance, ni de respecter les accords de cessez-le-feu. Il est urgent d'imposer ses troupes dans le dispositif. Pour lui, pas question non plus de laisser une autre idéologie que celle qui a animé la lutte nationaliste s'installer dans le pays.
Nous ne voulons pas copier un schéma ou importer un schéma quelconque et l'imposer à l'Algérie. L'Algérie égale l'Algérie. L'Algérie ni Cuba, ni l'Égypte, ni la Chine, ni l'Indochine. L'Algérie, c'est l'Algérie. Là, c'est caractéristique.
C'est pour ne pas laisser s'installer une autre idéologie politique que Wari Boumdienne ne va pas se résoudre à accepter le cessez-le-feu imposé par les accords d'Évian. Il a son poulain, son leader, qu'il veut imposer. Ahmed Ben Bella.
Ce n'est pas uniquement une question d'amitié, c'est une question aussi de politique générale. Pour moi, Ben Bella, elle est décidée à œuvrer dans le bien. Dans le bien du pays, dans le bien du peuple, dans le bien de tous. Il est de mon devoir, en tant que militant, de l'appuyer, de l'aider dans cette tâche.
Et s'il échouait ?
Ça, c'est une autre question.
Est-ce que vous pensez que les idéaux de la révolution, les objectifs sont atteints maintenant ?
Non, on ne peut pas dire que les objectifs de la révolution sont atteints.
Qu'est-ce qui manque ?
Je crois qu'il manque beaucoup de choses. Parce qu'une révolution, c'est... on ne peut pas l'atteindre en obtenant l'indépendance.
Pas question donc pour lui de respecter le cessez-le-feu. Commandant Abdourazak Bouhara, le chef de bataillon de l'ALN, l'armée de libération nationale.
Je fais partie de ceux qui ont violé les accords d'Évian. Parce que les accords d'Évian précisaient que les unités de l'ALN devaient rester sur place. Et moi, j'avais reçu un ordre pour franchir la frontière, pas tout seul, avec un peu plus d'une compagnie, pour établir une relation avec les responsables de la Wilaya 1 et de ce qu'on appelait auparavant la base de l'Est dans la région de Soukharas, c'est-à-dire établir des relations avec l'intérieur. J'ai franchi la frontière avec un laissez-passer du Croissant Rouge. Et je n'étais pas en tenue militaire, j'étais en tenue civile.
Salah Boubnider, responsable de la Wilaya 2.
C'était la révolution a changé d'orientation. Et c'était un problème d'hommes. Parce que quand on veut tuer une révolution, il faut tuer les hommes qui ont fait la révolution. Une fois tué, la révolution tombe. C'est ce qu'ils ont fait, nos camarades. En 62, il faut liquider la haleine, hein, parce que c'est une armée populaire qui a défendu le peuple. Comme ça, prenant le pouvoir, c'était pour le pouvoir.
L'armée des frontières de Wari Boumdienne qui roule pour Ben Bella avance. Elle est à Constantine le 24 juillet 1962.
Le colonel Boumdienne vient de faire son entrée dans la ville de Blida, debout dans sa voiture,
avec à ses côtés le colonel Chabani, le commandant Slimane et le colonel Benchéri. Souriant, ils répondent un geste de la main aux applaudissements et aux vivats que vous pouvez entendre. Les soldats sont fièrement dressés dans leurs camions, des JMC, des camions civils, des semi-remorques, des cars même, sur lesquels on peut voir du matériel de camping, des lampes, des batteries, des couvertures, un matériel de tout genre, des caisses de munitions même, et derrière les camions accrochés des canons de DCA même, un canon 75 circules. Et voici maintenant un frac qui suit une ambulance. Le tout remonte l'avenue de la gare et gagne la place de Verdun.
L'affrontement est inévitable. Désormais, les nationalistes se battent entre eux. C'est maintenant une guerre de personnes, une bataille pour le pouvoir.
Nous faisons un appel à tous les dirigeants qui sont en ce moment pour qu'ils soient unis.
Nous ne voulons pas crier vive un tel ou vive un tel. C'est le peuple qui commande tout, c'est le peuple qui a combattu pour la révolution, c'est lui qui l'a construite de ses mains.
Les troupes de Boumediene qui soutiennent Ahmed Ben Bella avancent inexorablement vers l'Algérois.
À l'heure qu'il est, la reprise en main de l'Algérois, annoncée hier soir par M. Kider, est commencée. À l'ouest, au sud et à l'est, la presque totalité du territoire de la Velaïa 4 est actuellement investie par les troupes régulières de l'armée nationale populaire du colonel Boumediene. L'opération, organisée par le bureau politique, a pour but principal de faire rentrer dans le rang les éléments incontrôlés de cette vilaya qui, joints au FFI du 1er juillet, ont à leur actif un pénible bilan fait de vols, de pillages, d'enlèvements et quelquefois aussi de meurtres. Pour réaliser cette opération, le colonel Boumediene a fait venir des troupes de l'intérieur. Le patron de l'armée algérienne avait installé son PC à Boufarik, à 37 km d'Alger, et c'est là que nous l'avons rencontré en fin de matinée.
L'essentiel de cette opération, c'est de rétablir l'ordre et assurer la sécurité de tous les Algériens. C'est-à-dire que l'opération vise surtout des éléments incontrôlés. Parce qu'il existe actuellement des éléments incontrôlés. Il existe aussi des gangs ou de véritables. C'est-à-dire qu'ils n'ont de l'ex-Sahélène que la tenue et la mitraillette.
Deuxième étape de cette journée, pour nous, les 4 ou 5 journalistes qui l'avons suivi dans l'Algérois, le déjeuner. Un déjeuner fort sympathique puisque le colonel Boumediene nous avait invités. Boumediene, 40-45 ans, visage fermé, hybridé, cigarette sur cigarette, un sourire aux lèvres en permanence. On l'a présenté comme un ascète, comme un chinois au sens politique du terme. En fait, pour nous, ce matin, il a su se montrer agréable, aimable, courtois et quelquefois plein d'humour.
Les troupes de Wari Boumediene vont rapidement prendre le dessus dans cet affrontement.
14h. Le déjeuner n'est pas terminé, des cris dans la rue, un bruit de moteur, l'armée nationale algérienne fait son entrée dans Boufarik. 2000-2500 hommes traversent ainsi la ville pendant une demi-heure sous les acclamations de la foule. C'est le deuxième élément qui passe, le premier avait transité dans cette ville de la Mitidja vers 11h ce matin venant de Blida. Le colonel Boumediene, accompagné de son adjoint, le commandant Slimane, et d'un nouveau député d'Alger, Djelloul Malaïka, se rend ensuite à la gare de Blida, où à 14h30, un train spécial venu de Bogari, avec 3000 hommes de l'ANP, entre en gare. Dans ce train, le colonel Chabani, qui commande la Velaïa 6. Nous avons découvert une armée disciplinée, bien équipée, en tout près de 10 000 hommes, qui ont été aussitôt mis en place.
Wari Boumediene et Ben Bella pénètrent dans Alger le 3 août 1962. Malgré l'opposition de la Wilaya 4 du 20 août au 4 septembre 1962, il est à présent le maître du jeu. Il est parvenu à prendre la place d'Alger. Il a conduit son leader dans la capitale. Mais comment Wari Boumediene va-t-il procéder pour légitimer son pouvoir? Quelle place va-t-il occuper dans le dispositif où il tient l'armée? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Wari Boumediene. Après le maquis et son armée des frontières, va-t-il trouver sa place à Alger? Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite. Restez à l'écoute de RFI.
Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Aux yeux de GPRA, on était dehors la loi.
Non, on n'a pas fêté l'indépendance.
parle de moi, je parle de tous mes compagnons, je parle de tout, de toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était la majorité, c'était ce qu'il y avait de plus solide, de noyau le plus dur de la révolution.
C'est bien pour cela qu'ils ont pris les armes au moment de l'indépendance pour monter sur Alger. Pas question pour lui d'accepter la souveraineté internationale telle que conclue dans les accords d'Évian. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Houari Boumediene, le second président de la République d'Algérie.
La reprise en main de l'Algérois, annoncée hier soir par M. Kider, est commencée. À l'ouest, au sud et à l'est, la presque totalité du territoire de la Velaïa 4 est actuellement investie par les troupes régulières de l'armée nationale populaire du colonel Boumediene. L'opération, organisée par le bureau politique, a pour but principal de faire rentrer dans le rang les éléments incontrôlés de cette Velaïa qui, joints au FFI du 1er juillet, ont à leur actif un pénible bilan fait de vols, de pillages, d'enlèvements et quelquefois aussi de meurtres. Pour réaliser cette opération, le colonel Boumediene a fait venir des troupes de l'intérieur. Le patron de l'armée algérienne avait installé son PC à Boufarik, à 37 km d'Alger, et c'est là que nous l'avons rencontré en fin de matinée.
L'essentiel de cette opération, c'est de rétablir l'ordre et assurer la sécurité de tous les Algériens. C'est-à-dire que l'opération vise surtout des éléments incontrôlés. Parce qu'il existe actuellement des éléments incontrôlés. Il existe aussi des gangs de véritables. C'est-à-dire qu'ils n'ont de l'ex-Sahélène que la tenue et la mitraillette.
Deuxième étape de cette journée, pour nous, les 4 ou 5 journalistes qui l'avons suivi dans l'Algérois, le déjeuner. Un déjeuner fort sympathique puisque le colonel Boumediene nous avait invités. Boumediene, 40-45 ans, visage fermé, œil bridé, cigarette sur cigarette, un sourire aux lèvres en permanence. On l'a présenté comme un ascète, comme un chinois au sens politique du terme. En fait, pour nous, ce matin, il a su se montrer agréable, aimable, courtois et quelquefois plein d'humour.
Ce 3 août 1962, Houari Boumediene, qui a fait le choix d'Ahmed Ben Bella, rentre victorieux dans la ville d'Alger avec son chef. Fin septembre de la même année, une assemblée élue présidée par le vieux nationaliste Ferhat Abbas s'est réunie pour établir la constitution du nouvel État.
J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première assemblée nationale algérienne souveraine.
En réalité, l'adoption de cette constitution au sein de cette assemblée a été préparée et orchestrée par Ben Bella. Elle n'est qu'une chambre d'enregistrement de ce qu'il a concocté quelques jours plus tôt. Aussi Naït Ahmed, l'un des leaders historiques du Front de Libération Nationale, le FLN.
La constitution a été faite dans un cinéma par des gens choisis sur le volet, comme on dit.
Trié sur le volet.
Trié sur le volet. Et puis, évidemment, chaque fois, ils essaient de respecter les formes. Ils l'ont imposé à l'Assemblée constituante. C'est là où le sens de l'honneur chez certains hommes comme Ferhat Abbas et d'autres ont démissionné.
Le lendemain des élections faites par le FLN, Ahmed Ben Bella est tout simplement investi dans ses fonctions de chef de gouvernement. Il présente alors le premier gouvernement de la République de l'Algérie indépendante.
Notre gouvernement n'est que l'instrument choisi par le parti pour traduire dans des faits une pensée politique qui a élaboré ce parti. Le nouveau gouvernement est constitué de militants, d'authentiques révolutionnaires. Nous avons rompu avec les pratiques d'avant. Nous sommes nullement tenu à la valeur formelle des parchemins, mais à la valeur intrinsèque des militants, des authentiques valeurs sécrétées par cette année et demie de lutte, et nous avons voulu leur donner des responsabilités au sein de ce gouvernement. Président du Conseil, Ahmed Ben Bella, vice-président du Conseil ministre de la Défense nationale, Hawari Boumdien, vice-président du Conseil, Mohamedi Saïd, vice-président du Conseil, Betat Rabah.
Wari Boumdien est donc le vice-président du Conseil et ministre de la Défense. Il est en réalité le numéro 2 du régime. Il a la force avec lui. Cette promotion, de même que la présence dans le cabinet des partisans du chef de l'armée, notamment Abdelaziz Bouteflika aux affaires étrangères et Ahmed Medegri à l'intérieur, traduit déjà un rapport de force. Ahmed Ben Bella peut donc prendre les rênes. Ali Haroun, dirigeant du FLN en France.
À partir du moment où c'est la force qui a primé, et il est là, il y a un bureau politique, on va le voir. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? La première des choses, il dit, remettez l'argent qui reste à un tel. On dit, très bien, cet argent n'est pas le nôtre. Hein. C'est les restes, c'était les cotisations, je crois, des deux ou trois derniers mois de la fédération, qui n'avait pas eu le temps d'être transmise par la voie normale. Monsieur Ben Bella désigne quelqu'un et qui part avec Omar Boudaoud en Suisse et il lui fait la passation des comptes, etc. Il obtient le quitus et puis nous ne sommes plus rien. C'est fini.
Maintenant qu'il a pris le pouvoir par la force, qu'il a écarté les autres leaders de la révolution, il faut passer à l'étape suivante, la légitimation de son pouvoir. Pour le faire, Ahmed Ben Bella va encore une fois s'appuyer sur Wari Boumdien, qui transforme l'armée de libération nationale en armée nationale populaire, dans laquelle il rassemble tous les wilayas. Malgré les tensions, malgré les oppositions qu'elle suscite, la constitution de type présidentiel est adoptée. Il s'agit maintenant d'élire le président de la République. Ahmed Ben Bella est seul en course.
Dimanche prochain, Monsieur Ben Bella sera élu président de la République algérienne. Avant-hier, les Algériens ont approuvé la constitution du nouvel État et en fait voté déjà pour M. Ben Bella. Aujourd'hui, l'état-major du FLN, les cadres du parti, ont désigné leur candidat à la présidence. Pas de surprise, c'est M. Ben Bella et nous allons écouter, recueilli par Joseph Baltou, les propos du colonel Boumedienne qui traduisent cette décision.
Considérant que le frère Ahmed Ben Bella par son action dans la Révolution et au cours de la première année d'indépendance est le militant le plus à même de mener le pays dans la voie du succès. Considérant que sa candidature constitue un acte d'unité nationale, décide de présenter au suffrage du peuple algérien la candidature du militant Ahmed Ben Bella comme président de la République algérienne démocratique et populaire.
Le président Ben Bella a alors pris la parole, s'exprimant parfois en français, comme pour aller jusqu'au bout de sa pensée, affirmant que le peuple algérien n'accepterait jamais une dictature, que l'Algérie verrait ses structures complètement bouleversées, rencontrerait beaucoup de difficultés à l'extérieur. Quant à ses propres erreurs que dénoncent les opposants,
il y a un cadre pour les régler, c'est le FLN.
C'est sans surprise que Ahmed Ben Bella va être élu le 15 septembre 1963 président de la République algérienne. C'est le sacre.
Il y a quelque chose de fondamental, une révolution authentique. Il se propose de faire quelque chose d'authentique dans ce pays, une révolution, quels que puissent être les obstacles, qu'ils soient internes ou externes. Il n'y a pas de force au monde qui nous arrêtera. Il n'y a pas de force au monde qui arrêtera l'action authentiquement révolutionnaire que nous avons décidée ici. Nous nous battrons s'il faut contre le monde entier, nous armerons s'il faut des centaines de milliers d'Algériens, mais nous mettrons la main sur les privilèges. Mais nous remettrons les richesses du pays, les instruments de richesse, entre les mains des travailleurs, en particulier entre les mains des fellahs. Cela nous le ferons coûte que coûte. Si le monde entier s'allie contre l'Algérie, l'Algérie ferait cela.
Ben Bella va très rapidement se débarrasser de tous ses réels adversaires politiques. Tous ses ex-compagnons de la lutte armée qui s'opposaient à son régime autocrate ont été laminés. Mohamed Boudiaf, avec lequel il a été emprisonné en France, a été déporté dans le Sud, condamné à mort en 1964 avant d'être contraint à l'exil au Maroc. Aussi, Naïd Ahmed, fondateur du parti d'opposition Front des Forces Socialistes, FFS, a été jeté en prison pour avoir lancé un mouvement de sédition dans les montagnes de Kabylie. Krim Belkacem, l'autre héros de l'indépendance et grand négociateur des accords d'Évian, lui a été poussé vers l'exil en France. Le colonel Mohamed Shahabani, qui contrôlait les départements du Sud, a été carrément exécuté le 3 septembre 64 après un procès expéditif pour haute trahison. Quand des officiers de l'armée l'ont supplié d'épargner sa vie, Ben Bella, lui, a refusé la grâce. « Je vous ai dit, exécutez-le cette nuit. » Fin de citation. Débarrassé de ses ennemis, Ben Bella pense pouvoir enfin mettre en œuvre sa politique socialiste algérienne, notamment la redistribution des terres des pieds noirs aux paysans et les nationalisations.
La révolution a été faite par les paysans. L'originalité d'abord, le fait essentiel est là, justement, se trouve là. Ceux qui ont assumé la révolution, ceux qui l'ont... le plus assumé, disant, parce que assumer tout seul, non, ce ne serait pas juste de dire cela, mais ceux qui l'ont le plus assumé, cette révolution, eh bien, il faut dire, ce sont les paysans. Voilà un trait essentiel. Je crois que l'autre trait essentiel, c'est que c'est une révolution populaire aussi, où le peuple vraiment est très concerné. Où le peuple, je veux dire, tout le peuple est très concerné. Et je dirais aussi, c'est une révolution humaine, je crois, très sincèrement, où l'homme est dans le coup, si l'on veut, où les militants, où le peuple est très concerné, grâce aux actions de masse qui sont entreprises. À Cuba, c'est la Zafra, c'est pareil que la Zafra, c'est un tas de choses. Chez nous, grâce aux campagnes de l'arbre, de solidarité, au volontariat.
Ce que Ben Bella n'a pas forcément pris en compte, ce sont les ambitions de certains proches qui l'ont installé par la force dans ce prestigieux mais fragile fauteuil présidentiel. Aussi, Naïd Ahmed, qui ne peut supporter le pouvoir personnel qu'impose Ahmed Ben Bella, va créer son maquis pour continuer la résistance.
Les troupes de Boumediene ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous. À nous tous de continuer la résistance.
Entre Wari Boumediene et le président Ahmed Ben Bella, en cette année 1963, les relations ne sont plus les meilleures. Les dissensions se multiplient entre le chef de l'État et le clan d'Oujda de Wari Boumediene. Entre les deux, qui ont certes des tempéraments différents, l'opposition ne porte pas tant sur les options fondamentales, notamment les options socialistes proclamées par la charte d'Alger, que sur la façon de les appliquer. Tandis que Ben Bella joue les tendances les unes contre les autres, qu'il concentre de plus en plus de pouvoir entre ses mains, que le FLN, le Front de Libération Nationale, étale ses faiblesses, l'armée apparaît une fois de plus comme la seule force organisée. Le chef de l'État prend ombrage de l'activité idéologique que Boumediene mène dans l'ombre. Les rumeurs de complot que préparerait le ministre de la Défense se multiplient à tel point qu'un jour, le président, qui présente Boumediene à un journaliste égyptien, dit ceci « Voici l'homme qui prépare des complots contre moi ». Mais le conflit entre les deux hommes entre dans une phase plus aiguë lorsque Boumediene déclare que le soldat doit avoir deux armes, son fusil sur l'épaule et des principes politiques dans son esprit. Il ajoute « La tactique militaire qui veut que la meilleure façon de se défendre soit d'attaquer est aussi une tactique politique ». Le message est reçu 5/5. Désormais, on s'observe. Pour réduire l'influence de Houari Boumediene sur l'armée, Ben Bella va nommer en mars 64 Taha Briri à la tête de l'état-major. Erreur. Boumediene sur le qui-vive s'entend avec l'homme censé le neutraliser et conserve la main sur l'armée. Seconde erreur du président algérien en juillet de la même année 64, Ben Bella demande au préfet de lui adresser directement leur rapport en ignorant le ministre de l'Intérieur. Médégri démissionne en signe de protestation. Et lors d'un remaniement ministériel en décembre 64, il réduit considérablement les attributions de Chérif Belkacem, un des membres du clan d'Oujda, ministre de l'Orientation qui a sous son autorité l'information, l'éducation nationale et la jeunesse. Le président de la République, déjà chef du gouvernement et secrétaire général du FLN, s'attribue les portefeuilles de l'intérieur, des finances et de l'information. Ben Bella rassemble en somme maintenant sur son nom toutes les oppositions.
En Algérie, il y a un régime et il y a une direction plus unie que jamais et plus décidée aussi que jamais à faire face aux complots d'où qu'ils viennent et surtout les complots extérieurs. Voilà ce qu'il y a dans notre pays.
28 mai 1965, le colonel Boumediene représente l'Algérie à la conférence des chefs de gouvernement arabes au Caire. Le président Ben Bella annonce qu'il retire à Abdelaziz Bouteflika, autre membre du clan d'Oujda, son portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Bouteflika alerte aussitôt le colonel Boumediene. Il rentre immédiatement à Alger et réunit ses compagnons du clan d'Oujda que viennent rejoindre les officiers Chaoui avec entre autres Tahab Ziri, Saïd Abid, Ahmed Draya, Salah Soufi, Abdelaziz Zerdani. À partir de cet instant, ils savent à quoi s'en tenir. Ils sont voués à être écartés. L'épreuve de force est donc désormais inévitable. Début juin 1965, le clan d'Oujda, rejoint par des commandants des régions militaires, enchaîne les réunions secrètes sous la férule de Boumediene. Ils discutent de la date du putsch et du modus operandi. Le temps presse parce que le 29 juin, le chef de l'État algérien doit présider en grande pompe la conférence afro-asiatique à Alger. Le destituer après qu'il a paradé avec les chefs d'État d'Afrique et d'Asie est un exercice dangereux. L'opinion internationale et les puissances étrangères refuseraient de reconnaître la légitimité de nouveaux dirigeants arrivés au pouvoir par la force. Bouteflika suggère d'agir avant la tenue de ce sommet, puis de faire la tournée des ambassades étrangères pour justifier le coup de force. Le plan adopté, il faut maintenant arrêter une date. Le temps presse. Il faut éviter que cela ne suscite des manifestations au sein de la population. Même si beaucoup de leaders lui reprochent son autoritarisme et son pouvoir personnel, Ahmed Ben Bella jouit tout de même d'une certaine popularité. Les conjurés parviendront-ils à le faire tomber? Ben Bella, prévenu du danger qui pèse sur son régime, les laissera-t-il faire? Une chose est certaine, les jours qui vont suivre s'annoncent mouvementés pour les uns et les autres, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Houari Boumediene. Mais vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site des RFI ou sur archivesdafrique.com. Ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Apple Store et sur Google Play. Vous y retrouverez également tous les personnages marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique dont nous avons parlé. Vous pouvez, dans le même temps, réagir sur notre page Facebook, la première sur notre radio, avec ses 580 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'archives d'Afrique consacrée à Houari Boumediene. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. À très vite.